Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
pratiquement 2, bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1 et sur CNews, bienvenue à nos téléspectateurs et nos auditeurs. On est ensemble pour une heure pour débattre des grands sujets de l'actualité. Nous sommes avec Julien Drey, bonsoir.
Bonsoir.
Fondateur du mouvement Réinventé, et avec Alexandre Devecchio, bonsoir.
Bonsoir.
Rédacteur en chef adjoint au Figaro. On va parler de politique évidemment avec ce premier déplacement d'Elisabeth Borne, on va l'écouter dans un instant. Elle s'est rendue auprès de jeunes filles pour promouvoir l'égalité des chances, c'est quelque chose qui lui tient très à cœur. Mais d'abord, on va se tourner vers l'Élysée. Emmanuel Macron, qui a tenté de tempérer les ardeurs de ceux qui s'impatientent que le gouvernement, le nouveau gouvernement, ne soit toujours pas nommé. Écoutons le président de la République, sa réponse.
Le travail continue de manière sérieuse, mais ce n'est pas une chose légère. Elle requiert du temps, des échanges de fonds, et c'est ce que la Première ministre et moi-même faisons. Donc autant de temps qu'utile et que nécessaire, car il s'agit du gouvernement de la France.
Voilà, autant de temps utile que nécessaire. Il s'agit du gouvernement de la France, Julien Drey. Est-ce que le président fait durer pour le plaisir ou est-ce qu'il a un tout petit problème pour trouver son casting de rêve ?
Je suis pas, donc j'arrive pas à savoir. Ce qui est vrai, c'est que ça fait la joie des internautes. Parce que si vous saviez le nombre de listes de gouvernement qui circulent demi-journée,
ah oui, demi-journée. Il y en a une par jour.
Il y en a une par jour et ça fait des heureux ou des malheureux ou des malheureuses. Voilà, je crois qu'ils prennent le temps. Visiblement, ils ont décidé de d'être les. Comme on dit, ça mettre des horloges,
hein, c'est oui, ça. Jusqu'au bout.
Voilà. Alors, en plus, il n'y a rien qui fuit, il faut être honnête. C'est extraordinaire, il n'y a rien qui fuit. D'habitude, il y a toujours des gens qui disent « j'ai été contacté, j'ai pas été contacté ». Mais visiblement, j'ai l'impression que la consigne a été donnée, que le premier qui dit qu'il a été contacté, il est sûr de ne plus y être.
Alexandre Devecchio, aussi une stratégie du président de la République qui veut étirer le temps afin que la campagne législative soit très courte, au fond.
C'est une possibilité. Il faut reconnaître qu'Emmanuel Macron a toujours fait ça. La dernière fois, il n'y avait pas un aussi long délai avant la campagne législative et il avait déjà été le maître des horloges. D'ailleurs, l'expression est de lui. Moi, je pense qu'effectivement, un gouvernement, c'est normal qu'on prenne un peu de temps pour le constituer. Hein. Dans des systèmes où il y a des coalitions, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais on peut y voir une double stratégie, effectivement une manière d'écourter la campagne des législatives, mais aussi de tenir, d'éviter les divisions, si vous voulez, parce que plus tard le gouvernement est donné, moins il y a de critiques internes, parce que souvent ça fait des déçus, et les déçus tout d'un coup se montrent beaucoup plus critiques et beaucoup plus libres dans leur parole. C'est pour ça qu'Emmanuel Macron apparemment, non seulement va le donner assez tard son gouvernement, mais il pourra le donner de manière fractionnée, en annonçant qu'il y aurait une première partie avant les législatives et une deuxième ensuite. Ce serait une manière effectivement de tenir tout le monde au garde à vous et d'éviter les critiques internes, les divisions. Moi, je pense que ça ne va pas changer grand-chose. On connaît ce qu'aime Emmanuel Macron, et d'ailleurs Elisabeth Borne en est le parfait prototype. Il aime les techniciens qui n'ont pas tellement de poids politique, et en réalité, comme je dis toujours, on sait à peu près la composition du gouvernement. Premier ministre Emmanuel Macron, ministre de l'Intérieur Emmanuel Macron, ministre des Affaires étrangères Emmanuel Macron, et ministre des Affaires sociales Emmanuel Macron, etc. etc.
Viendrait, vous êtes d'accord avec ça ou pas ?
Non, il ne faut pas. Je pense qu'il cherche à avoir. Moi, c'est mon sentiment depuis le début, c'est-à-dire qu'il a tiré des leçons du premier quinquennat. Donc, il cherche à avoir une équipe qui fonctionne vite. Il a pas envie d'avoir de couac, donc il pèse et sous-pèse les bons postes. Il n'est pas omniprésent à ce point que vous voulez le lire. Je pense que c'est pour ça que les uns et les autres, vous êtes toujours en train de lui faire un procès en disant que c'est une sorte de Deus ex machina qui tire toutes les ficelles, etc. Je pense que c'est un peu plus compliqué, si vous me permettez. Voilà.
Je sais pas.
Je pense en plus qu'avec une femme comme Elisabeth Borne, de ce que je vois, de ce que je lis, de ce que j'apprends,
on va écouter, d'ailleurs.
Je suis pas sûr que ça soit. Il a une femme de caractère en face de lui,
oui, quoi,
visiblement, et donc il va pas faire n'importe quoi.
De caractère peut-être, mais en tout cas qui a priori a pas d'ambition politique personnelle et qui n'a pas forcément de vision politique. Elle a un profil d'expert, de technicienne, et c'est plutôt le genre de profil qu'il veut, d'exécutant chevronné.
Alors on va écouter Elisabeth Borne. On a beaucoup parlé d'elle. Elle s'est rendue au Mureau pour son tout premier déplacement. Elle y a rencontré des associations sur le thème, je vous le disais, de l'égalité des chances, notamment entre les hommes et les femmes. Écoutez les mots qu'elle a employés. Elle dit aux jeunes filles de croire en leurs rêves. Elle évoque aussi son parcours personnel. Écoutez.
Je pense que c'est important d'avoir des rêves, d'avoir des envies. C'est important de prendre confiance. On l'a beaucoup entendu parmi les jeunes femmes avec lesquelles on a échangé, il faut un rêve et il faut se dire qu'on va y arriver. Il ne faut surtout pas écouter tous ceux qui vous disent « ce métier-là ou cette voie, elle n'est pas faite pour toi ». Il faut aller au bout de ses rêves. Ça serait un peu long à raconter, mais je trouve que quand on a un parcours de vie difficile, ce qui est mon cas, et qu'il peut vous arriver des événements pas très agréables dans la vie personnelle, les sciences ont un côté rassurant et des choses logiques. Et donc, du coup, moi, ça m'a effectivement attiré. Et puis après ça, en s'accrochant, j'ai intégré une école. Ça m'a été bien utile parce qu'on était payé pour faire cette école, c'est Polytechnique. Et donc, ça m'a permis de financer mes études. Et puis, j'ai aussi un rôle modèle, une maman qui s'est retrouvée toute seule à élever ses deux filles. Donc, quelque part, ça vous dit que les femmes, elles peuvent aussi assumer ça, d'élever seules leurs enfants, y compris dans des conditions pas forcément simples. Ensuite, objectivement, je pense que dans des milieux d'ingénieurs où c'est à ce point déséquilibré, quelque part, les garçons, ils sont quand même plutôt contents de se dire qu'il y a quand même des filles aussi qui viennent dans ces filières. Donc, je pense que ça va bien se passer.
Voilà pour ce qu'a dit Elisabeth Borne tout à l'heure au Mureau. C'est intéressant, Julien Drey, la façon dont elle se sert à la fois de son histoire personnelle. D'abord, elle se présente aux Français aussi, parce qu'ils ne la connaissent finalement qu'assez peu, et les messages qu'elle fait passer.
Oui, parce qu'elle raconte une histoire, c'est son histoire. Et son histoire, quand ceux qui ne la connaissaient pas, comme moi, ou qui n'avaient pas regardé dans le détail, on voit que c'est une histoire qui n'a pas été simple. Elle y fait allusion, ça a été une bataille.
Elle
était pupille de la nation. Un père qui revenait des camps, qui avait perdu ses deux frères dans les camps, qui a été résistant. Donc ça a pas, je pense que ça n'a pas été facile pour elle tous les jours. C'est ce qu'elle laisse entendre. Et en même temps, elle s'est battue, et je crois que c'est important de commencer, et je trouve que de ce point de vue-là, les gestes sont symboliques et utiles, de commencer par s'adresser aux jeunes, en disant vous pouvez réussir, regardez, accrochez-vous. Elle parle aux jeunes filles aussi, beaucoup, donc c'est... je trouve que par rapport à ce que j'avais entendu au départ, on est loin de la techno-techno, hein.
C'est un pur produit de la méritocratie républicaine aussi, Alexandre.
Alors, plusieurs choses. Je pense que si elle fait cette communication, c'est une opération de communication plutôt réussie. Il est vrai, c'est justement parce qu'on va lui faire le reproche d'être techno, peut-être d'être assez froide. Je suis prêt à assumer. Elle n'est pas énarque d'ailleurs, mais je pense qu'elle a un profil de technicienne quand même. Je suis prêt à assumer et vous dire pourquoi ça peut être un problème dans le gouvernement des hommes. Mais pour ce qui est de la méritocratie, oui, c'est tout à son honneur de partir de bas et d'avoir réussi une forme d'ascension professionnelle, sociale. Ensuite, c'est valable aussi pour les garçons. D'ailleurs, tout le monde doit croire en ses rêves et essayer de les réaliser. Et c'est bien que la France permette justement à toute personne, quel que soit son niveau social d'origine, de pouvoir accéder aux plus hautes fonctions dans l'État comme elle le fait. Donc, de ce point de vue-là, j'ai rien à dire. Ça la rend effectivement sympathique. Maintenant, c'est peut-être aussi une des limites de l'idéologie macroniste et du gouvernement de ces dernières années. Il n'y a pas que Elisabeth Borne, c'est qu'on a toujours les mêmes profils. C'est-à-dire que la méritocratie finit par se reproduire aussi entre elles, à avoir les mêmes codes, les mêmes réflexes, et pas forcément à ouvrir à d'autres parcours et à comprendre peut-être la réalité des gens. C'est pas une élue, Elisabeth Borne.
Elle
connaît sans doute très bien ses dossiers, mais est-ce que gouverner, c'est connaître ses dossiers, avoir une approche budgétaire, une approche comptable? On l'a vu dans d'autres dossiers. D'ailleurs, on pourra se demander si elle est de droite ou de gauche après. Donc, c'est cette question aussi. Et est-ce qu'elle va être au contact de la réalité des gens ou pas? C'est le défi qu'elle a à relever.
Affaire à suivre, évidemment. Une petite pause. On se retrouve dans un instant. Julien Drey, vous aurez à nouveau la parole. Je crois que vous voulez lancer une alerte enlèvement pour savoir où est passée la droite. On la lancera dans un instant sur Europe 1 et sur Punchline et sur CNews. À tout de suite.
Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
On se retrouve sur Europe 1 et sur CNews dans Punchline, toujours avec Julien Drey et avec Alexandre Devecchio. Julien Drey, alerte enlèvement, où est passée la droite, dites-vous? On en a des petites nouvelles à travers les chicayas entre Damien Abad, Christian Jacob. L'un demande à l'autre de quitter, d'éclaircir la situation. En réalité, la droite a laissé le champ libre à Jean-Luc Mélenchon?
Non, déjà, il y a, excusez-moi, mais le comportement de M. Abad, il est bizarre. Il dit, je ne sais pas si je pars, j'attends la liste du gouvernement pour savoir si je pars.
Bon, il a dit qu'il éclaircirait les choses ce soir.
Oui, bon, mais il y a un moment donné, il faut quand même, dans la vie, on ne peut pas jouer sur tous les tableaux. C'est pas fromage et dessert dans cette affaire-là, quoi. Donc, il faut quand même qu'il clarifie. C'est quand même, pour le moins, bizarre comme attitude. Bon, voilà. Alors après, la droite, elle ne s'en remet pas de sa défaite électorale. Pour l'instant, elle n'a pas tiré beaucoup de conséquences et elle va avoir des législatives très compliquées, mais elle va jouer énormément sur son implantation locale, c'est pour ça qu'on la voit pas. Là, les députés sortants, ils sont tous sur le terrain, en train de faire le tour de toutes les associations, de tous les quartiers, etc. Ils ont compris que la bataille pour eux, c'était pas une bataille idéologique, c'est une bataille de proximité, ils vont essayer de jouer ça. Alexandre, donc je pense qu'ils n'allaient pas les voir beaucoup dans les semaines à venir.
On va pas les voir beaucoup, ils vont pas relever la tête, Alexandre Devecchio.
Non, sur Abad, je pense qu'il devrait partir tout de suite, on a bien vu que là, totalement opportuniste, effectivement, c'est si je suis appelé au gouvernement, je serai avec Macron, sinon, je resterai chez LR et je jouerai sur les deux tableaux. Le parti est en train de mourir de ça. C'est un syndicat d'élus qui n'a plus de vision, plus de conviction et de réelle idéologie politique. Et Damien Abad est le symptôme de tout cela. Et ce que dit Julien Drey est vrai. Il leur reste simplement le repli local. Mais on a connu ça avec un autre grand parti. Enfin, un parti qui fut grand, mais qui désormais n'existe quasiment plus. C'est le Parti Socialiste, qui a joué les villes, l'implantation locale, la circonscription. Et petit à petit, quand on n'a pas d'ambition nationale et qu'on ne défend pas une vraie vision, on disparaît. Je crois que c'est ce qui attend les Républicains. Donc, ils vont sauver une partie de leur siège, mais ils vont en faire moins que la dernière fois, peut-être moitié moins. Et ça laisse, pour la droite, ça laisse la droite totalement orpheline. Je crois que de toute manière, moi, je pense que le clivage droite-gauche est en train de disparaître. Il y a aujourd'hui trois blocs. Un bloc de gauche radical par Mélenchon, un grand bloc central et un bloc national. Mais je crois que pour un homme de droite, pour quelqu'un qui veut s'opposer à Emmanuel Macron, il y aurait de la place pour un homme de droite qui ferait l'union avec ce bloc national, un peu comme François Mitterrand avait fait l'union de la gauche. Encore faut-il être un aventurier, un peu comme François Mitterrand, avoir une forme de panache. Je crois qu'il y a il y a des gens qui, idéologiquement à droite, pourraient avoir cette idée-là, seraient compatibles avec ce bloc national. Je pense à Laurent Wauquiez, à David Nisla. En ont-ils l'envie? Sont-ils assez transgressifs pour ça? Ou préfèrent-ils simplement avoir une carrière d'élu local? C'est une des questions qui se posent à droite aujourd'hui.
En attendant, tout le monde a laissé un boulevard à Jean-Luc Mélenchon, Julien Drey.
Alors, ça c'est vrai, mais juste pour répondre à Alexandre,
allez-y.
Quel est l'espace politique qui leur reste? Parce que vous dites qu'il faut qu'ils fassent alliance avec l'extrême droite. Ça veut dire qu'ils vont à l'extrême droite, c'est tout. Ils ont, dans ces cas-là, oui, c'est un ralliement politique à Marine Le Pen et ils se mettent à ses côtés, comme l'a fait Sébastien Chenu, d'un certain point de vue. Il a anticipé un mouvement. Sinon, quel est l'espace politique? Il faut être honnête, il ne leur laisse pas grand-chose sur le plan politique, Emmanuel Macron, avec l'affaire du en même temps. Voilà, donc c'est pas simple pour eux, à part chevaucher le programme de Marine Le Pen, ou alors, et ça aussi c'est une rupture, ça veut dire qu'ils rompent sur la question européenne. Et à ce moment-là, oui, elle retrouve une identité.
Oui, je pense qu'il y a toujours eu de droite. Hein. Bon. C'est pour ça qu'il y avait le RPR et l'UDF. Il y a l'UDF qui est finalement très proche des idées d'Emmanuel Macron. Et je pense que la clarté, je suis d'accord avec vous, il devrait rejoindre tout simplement Emmanuel Macron. Par contre, il y a toujours une droite plus souverainiste, plus populaire, plus identitaire aussi. Et je pense qu'elle n'est pas obligée de se rallier à Marine Le Pen. D'abord, cette droite a existé avant Marine Le Pen. Il y a eu Séguin, il y a eu Pasqua. Oui. Et quand je parlais de François Mitterrand, souvenez-vous, à l'époque, c'est pas à vous que je vais apprendre ça, le Parti communiste était plus puissant que la SFIO. Et donc, c'est un homme qui est venu du camp modéré qui a chevauché, effectivement, le camp qui était le plus radical. Oui, oui. Donc, je pense que c'est la seule option qui leur reste pour quelqu'un qui voudrait exister. Encore faut-il, on sait que c'est une option qui est coûteuse, notamment sur le plan social, parce qu'on va être accusé d'être d'extrême droite, comme vous l'avez dit, parce qu'il y a encore ce truc du barrage républicain, qui est fou quand on y pense à l'heure où les socialistes s'allient avec Jean-Luc Mélenchon aux législatives. Mais il y a toujours ça. Et donc, il va falloir un peu de courage. Sinon, ils vont disparaître et ils auront une belle carrière d'apparatchik. Ça finit par disparaître aussi.
Le problème, c'est que c'est l'évolution de Marine Le Pen qui leur pose aussi problème. Parce que ils peuvent pas considérer qu'ils vont faire une OPA sur le Front National, parce que c'est ça, si on fait la comparaison avec François Mitterrand. Si Marine Le Pen était restée ce qu'elle était, oui, mais au regard de ses positions politiques actuelles, c'est là où ils vont avoir des difficultés.
Il faudra savoir, Julien Drey, si elle est d'extrême droite ou si elle n'est pas. Je pense qu'elle a évolué, mais elle s'inscrit quand même dans une généalogie qui est une généalogie d'extrême droite. Elle a perdu trois fois la présidentielle, donc il y a un doute. Et je pense d'ailleurs que le problème de Marine Le Pen, c'est plus la diabolisation, c'est le fait qu'une partie des gens ont des doutes sur sa capacité à gouverner. Donc, quelqu'un de droite qui était ministre, comme Laurent Wauquiez, rassurait notamment une partie des retraités.
Julien, je vais pas voter pour Marine Le Pen. J'essaie d'en placer une.
Je sais, oui, j'essaye.
Pardon.
C'est la passion.
Je sais que vous n'aimez pas beaucoup Marine Le Pen et que vous lui attribuez toutes les tares possibles, imaginables. Ceci étant dit, je m'excuse de le dire, moi j'ai une phrase auquel je tiens, la preuve du pudding c'est qu'on mange. Eh bien, excusez-moi, vous et d'autres, y compris dans ces débats-là, au début de la campagne, vous pensiez qu'elle allait se planter, qu'elle allait disparaître. Moi j'ai dit ici, je m'excuse de le dire, qu'elle faisait une bonne campagne, même si je ne suis pas d'accord avec elle, et que je ne tirais pas un trait d'égalité avec son père. Rappelez-vous cette phrase qui m'a valu beaucoup de commentaires désagréables, et je pense qu'elle s'est repositionnée politiquement. Donc c'est pour ça que je pense que c'est difficile pour un monsieur Lisnard ou même un monsieur Wauquiez de pouvoir dire je vais faire une OPA sur l'extrême droite. Parce qu'il y a Marine Le Pen maintenant.
Mais ça sert à Marine Le Pen, j'ai rien contre elle personnellement. Non, 30 secondes, qu'elle s'en allait.
30 secondes. Deuxièmement, la comparaison avec Mitterrand ne tient pas. Pourquoi ? Parce que Mitterrand, il fait une OPA, effectivement, en 1971, mais il le fait parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé dans le pays, qui est mai 68. Et c'est la force de ce que représente le mouvement de mai 68, cette radicalisation qui s'installe notamment dans la jeunesse, qui va lui permettre de prendre le Parti communiste à bras-le-corps et de faire cette alliance-là. Ce n'est pas le cas aujourd'hui à droite. Donc la comparaison ne vaut pas raison. Voilà.
Alors, allez, c'est juste qu'on avance. Juste, oui, non, mais il faut qu'on avance un peu après.
Je pense que ça joue à droite, parce qu'on a souvent dit qu'on avait gagné la bataille des idées. Il y a un certain nombre de mouvements sociaux, de la manif pour tous aux Gilets jaunes. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de choses qui se passent, je crois, dans le pays. Et j'ai absolument rien contre Marine Le Pen. Elle a fait une belle campagne, mais elle a dit qu'elle se retirait. Elle est pour rien. Elle a son histoire familiale qui pèse. On voit bien qu'elle n'arrive pas à faire 51%.
Elle n'était pas sûre d'être à nouveau candidate.
Voilà, d'accord, mais bon, elle n'a pas...
Julien, je vous ai posé une question sur Jean-Louis Mélenchon. Vous n'avez pas voulu répondre. Néanmoins, le boulevard lui a été laissé par la droite, notamment,
mais je suis pas
pendant 15 jours. Ah, peut-être que ça ne sera peut-être pas bénéfique. Vous pensez que dans les choix des investitures, dans le choix des candidats qu'il a fait, il y a un problème ou pas ?
Alors, je pense deux choses. D'abord, je ne suis pas sûr qu'on lui ait rendu service en le laissant comme ça en première ligne. Parce qu'il y a une forme de surchauffe chez Jean-Luc Mélenchon, excusez-moi. Et on voit bien qu'il est en surchauffe. Et quand il est en surchauffe, il peut faire des dérapages, souvenez-vous. Et là, je vois bien que dans ses prises de position, il est dans une sorte de starification. La manière peu élégante, excusez-moi l'expression, dont il a accueilli la nomination de Madame Borne, qui n'est pas de la tradition historique de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, quand il était sénateur, tout le monde vous disait qu'il était courtois, qu'il était respectable,
républicain, etc. En tout cas.
Voilà, là, on a l'impression qu'il est retombé dans les années, les mauvaises années du gauchisme, si vous me permettez, dans les années sectaires, qui est un mauvais travers. Alors après, le problème, c'est quoi ? C'est que vous allez découvrir que la France insoumise, c'est pas un parti, c'est un mouvement gazeux. Voilà.
Nébuleuse.
Donc, voilà, c'est une nébuleuse dans laquelle il y a un noyau dur qui choisit. Chacun fait ce qu'il veut dans les comités locaux. Donc la sélection des candidats, elle est très compliquée. Et donc eux-mêmes, des fois, d'après moi, sont en train de découvrir des candidats qu'ils n'avaient pas exactement prévu comme
là,
ça.
Là, il y a une candidate qui s'appelle Mathilde Panot, bien connue, qui a pour suppléante une infirmière qui s'appelle Farida Chic. Ça, c'est pour le Val-de-Marne. Et on s'aperçoit, voilà pour la photo de ces deux femmes qui se présentent dans le Val-de-Marne. Et cette infirmière, en fait, c'est elle qui avait jeté des pavés lors de la mobilisation de soignants sur l'esplanade des Invalides en juin 2020. La voici ici, à la fois jeter des pierres sur les policiers et leur faire des doigts d'honneur. Elle avait été condamnée pour violence, n'ayant pas entraîné d'incapacité temporaire de travail, 300 euros de dommages et intérêts, pas d'inscription à son casier. C'est ce genre de candidature, en tout cas de suppléante, qui vous pose question, Julien Drey ?
Je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur exemple qu'on puisse donner. En même temps, on ne peut pas penser que Mathilde Panot ne savait pas qui c'était. Donc elle a fait un choix.
Au contraire, elle a dit que c'est pour ça que...
C'est un choix, et c'est un choix dans la volonté d'affrontement qu'ils veulent incarner.
Elle dit qu'elle se bat depuis 20 ans pour l'hôpital public, elle incarne la dignité des soignants et des patients malmenés pendant la crise sanitaire.
Il y a des milliers de gens, des syndicalistes qui se battent pour l'hôpital public sans en arriver à ce type d'attitude. Et donc elle aurait pu faire un autre choix. C'est un choix délibéré. C'est pour ça que je pense qu'il y a une forme de retour au gauchisme assumé. Bon, si vous voulez, c'est ça qui est mauvais, c'est qu'on est dans la gestuelle, On n'est pas dans le fond idéologique. Et c'est la gestuelle, c'est l'image qui compte. Et on pense que parce qu'on va capter ces images-là, on va capter des électrices et des électeurs. Ça ne marchera pas comme ça.
Alors, Alexandre Devecchio, sur le choix de cette suppléante, Farid Hachik.
Je partage, pour le coup, à peu près tout ce qu'a dit Julien Drey. Je pense que ce qui est très problématique... D'abord, il faut rappeler cette séquence, parce qu'elle était très intéressante, ça commençait par une polémique où on voyait les policiers l'interpeller de manière brusque, et on avait les images de la France...
On est en juin 2020, on est là, au sortir de...
On est en 2020, on n'avait que les images de la France insoumise, et ça commence sur une polémique sur les violences policières. Et heureusement, il y a les images publiques qu'on ressort, et on voit que la réalité était quand même tout autre, que c'est elle qui était excitée et qui leur envoyait des pavés dans la figure. Donc, on voit bien que c'est assez trouble, et que c'est déjà une polémique instrumentalisée par la France insoumise. C'est pas simplement le dérapage d'une infirmière au bord de la crise de nerfs, parce que ça, à la limite, on pourrait se dire, voilà, c'est une femme représentative, elle a fait une erreur, elle a pété les plombs dans des conditions très difficiles, mais on voit bien que c'est une militante et que c'était quelque chose de très organisé et qui, en plus, s'inscrit dans un travail idéologique qui est fait anti-police. C'est ça qui est inquiétant. Je pense que c'est ça le message que veut faire passer la France insoumise auprès d'un certain public. Ils ne cessent de répéter qu'il y a une violence policière systémique, que la police est raciste, notamment dans certains quartiers. Dans le programme de Mélenchon, il y a la suppression de la BAC. Donc, voilà, c'est un geste politique, évidemment, d'avoir choisi cette candidate comme suppléante. Et c'est inquiétant, parce que là, pour le coup, c'est des positions, à mon avis, extrémistes. Aujourd'hui, dans l'état d'insécurité où est la France, on a besoin d'une police forte qu'on ne peut pas se permettre de décrédibiliser. Aujourd'hui, les policiers dans certains quartiers sont menacés de mort, risquent leur vie. Donc, la France insoumise, finalement, fait le jeu de la violence à l'égard des policiers.
Ce qui est ennuyeux, on peut, dans une manifestation, à un moment donné, avec l'effervescence, l'énervement, les gaz, déraper, c'est condamnable, c'est... Voilà. Ce qui aurait été intéressant, c'est qu'elle vienne dire, cette suppléante, « j'ai fait des bêtises ». Parce qu'on n'aurait jamais dû faire ça. C'est d'ailleurs pour ça que maintenant, je suis candidate pour servir d'exemple positif. C'est pas ça du tout qui se passe pour l'instant. J'ai pas entendu des déclarations qui remettaient en cause son attitude. Donc c'est bien un clin d'œil qui est fait à une forme de radicalité. Mais comment elle va faire quand dans un certain nombre de cités, un certain nombre de jeunes jetteront des pierres à des voitures de police? Elle leur dira, ça, vous, ce que vous faites, c'est pas bien. Ils diront, mais vous avez fait la même chose, donc qu'est-ce que vous venez nous reprocher? Donc c'est ça qui est problématique. Et être élu, c'est aussi une forme d'exemplarité. Donc, ils se mettent dans une situation en choisissant ce type de personnalité, en les mettant en avant. C'est un choix qui est fait, c'est un choix délibéré d'affrontement. Et je pense que c'est le mauvais signal qui est donné, y compris pour les jeunes des cités. Je l'ai dit avec ta voix, je le redis avec cette dame, je pense que les images qu'on renvoie à tous ces jeunes-là, au lieu de leur dire il y a d'autres voies, y compris électorales, sérieuses, de militantisme, d'engagement, ça c'est la voie de la radicalité pour la radicalité.
Alors il y a d'autres partis qui ont eu des candidats contestés. Jérôme Perra de La République En Marche a été débranché hier parce qu'il avait été condamné pour violence conjugale.
C'est pas de la même nature, mais c'était Alexandre aussi Vecchio. Grave, et il était temps qu'il soit débranché. D'ailleurs, La République
c'était
En Marche...
C'est surtout ce qui était grave, c'est la déclaration de M.
Guérini, qui le défendait.
Sur le fond, il l'a assassiné. Par le type de déclaration qu'il a faite, a fait que tout le monde a dit, mais c'est n'importe quoi.
Il a dit, en l'occurrence, c'est un brave homme, mais il est incapable de violences faites aux femmes.
Mais il y a une différence quand même avec La République En Marche, je crois, même si, encore une fois, je pense que c'était une faute de maintenir ce candidat, comme c'était une faute de maintenir Majid El Gharab, qui avait fait défoncer le crâne d'un responsable socialiste. Mais il y a une différence, c'est qu'il n'y a peut-être pas de projet idéologique derrière. C'est-à-dire, on soutient les copains, pardonnez-moi de le dire comme ça, et peu importe qu'ils aient un casier judiciaire ou pas. Là, il s'agit vraiment d'une politique, et d'une politique, il faut le dire, anti-police, anti-France, et qui alimente délibérément le ressentiment d'une partie de la population qui est déjà un peu en sécession par rapport à la France. Et effectivement, Elisabeth Borne, je trouve, on voyait les images tout à l'heure, elle allait dans une cité, elle disait « croyez en vos rêves ». Bon, il y avait peut-être un peu de communication. La République En Marche est parfois imparfaite aussi sur ces questions-là, mais je trouve que c'est une attitude plus intéressante. Leur dire « il y a des chances aussi pour vous en France », plutôt que leur dire « la France vous déteste, allez taper les policiers et en fait vous avez raison d'être délinquant puisque le système est contre vous ». Je pense que c'est caricatural et dangereux.
Allez, il est 18h30, on est en direct sur Europe 1 et sur CNews. On rappelle des grands titres de l'actualité avec Isabelle Piboulot.
Affaire Omar Haddad, nouvelle audience prévue le 15 septembre. Aujourd'hui, la défense de l'homme de 59 ans a présenté de nouveaux éléments en faveur de sa demande de révision. Une enquête de gendarmerie inachevée, menée entre 2002 et 2004. L'ancien jardinier, qui a toujours clamé son innocence, est accusé depuis 1991 du meurtre de Ghislaine Marchal, riche veuve d'un équipementier automobile. L'association de défense des consommateurs Foodwatch porte plainte contre Kinder et Buitoni. Cela fait suite au scandale de contamination à des bactéries présentes dans les chocolats et les pizzas des deux marques. Foodwatch pointe leur irresponsabilité et entend casser le climat d'impunité face à ces multinationales. En football, l'équipe de France disputera 4 matchs de Ligue des Nations en juin, mais ce sera sans eux, Olivier Giroud, non sélectionné, ni Paul Pogba en phase de récupération. Une absence qui profite à Boubacar Camara, appelé pour la première fois. Didier Deschamps a également précisé que Kylian Mbappé devrait lever le voile sur son avenir en club avant le rassemblement.
On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant sur Europe 1 et sur CNews avec Julien Drey et Alexandre Devecchio. On reviendra sur ce qui s'est passé à Bayonne. La veuve de Philippe Monguillo, ce chauffeur de bus qui a été battu à mort en 2020, se dit affligée par la requalification par la justice des faits et incriminée aux deux suspects qui sont toujours en détention provisoire. A tout de suite dans Punchline.
Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
De retour sur le plateau de Punchline, Europe 1 et CNews avec Julien Drey, fondateur du mouvement Réinventé, et Alexandre Devecchio, rédacteur en chef adjoint au Figaro. Vous vouliez nous parler, Alexandre, de ce qui s'est passé à Bayonne, de la colère de la veuve de Philippe Monguillo, ce chauffeur de bus battu à mort lors d'un contrôle dans son bus, enfin juste à l'extérieur. Les deux hommes, deux prévenus qui sont en détention provisoire depuis les faits, depuis juillet 2020, a priori pourraient échapper à la cour d'assises. Ils pourraient passer devant une cour criminelle, ce qui réduirait de facto la peine qu'ils encourent. On va écouter la réaction de Mme Monguillo. Elle était hier en direct dans Punchline.
C'est un coup de tonnerre parce qu'on ne s'attendait vraiment pas à ça. Et on a, jusqu'à hier, on y croyait. Et puis finalement, on n'y croit plus. Ils vont être jugés à minima, alors que... Pour nous, pour tout le monde, pour les personnes qui ont été choquées, pour la France entière, hein, ça a même dépassé les frontières, ça reste un meurtre. J'ose encore faire confiance à la justice. Je m'accroche, je suis une battante, je me battrai jusqu'au bout, et je veux faire croire à la justice, et je veux que la justice nous regarde, vraiment qu'elle nous regarde, et qu'elle regarde bien ce dossier, qui est, comme je vous dis tout à l'heure, qui montre tout, qui prouve tout. Ce dossier d'instruction, il prouve tout.
Alexandre Devecchio, pourquoi est-ce que vous vouliez absolument... Pourquoi cette affaire est symbolique? Pourquoi cette requalification des faits est importante à vos yeux?
Moi, ce qui m'a frappé, c'est quand on la met en parallèle avec l'affaire du Pont Neuf.
On parle d'un policier qui ouvre le feu sur un refus de tempérer.
C'est un policier qui ouvre le feu au moment où il y a un barrage. Et l'affaire est requalifiée, mais à l'inverse.
Et là, il y a deux morts dans la voiture et un blessé grave. Comme ça, on est complet.
Oui, il y a deux morts dans la voiture et un blessé grave, mais des délinquants qui ont un casier judiciaire et qui tentent de faire barrage.
Il n'y a pas
plus,
de mais, Alexandre.
Un jour.
Ce sont deux morts avec un blessé.
Oui, mais quand même, les circonstances, pareil. Pour le coup, il y a un mort qui est tabassé qui est lynché dans un bus parce qu'il a demandé le titre de transport. Et il y a un policier qui tire parce qu'il y a un danger, il y a un barrage qui est forcé. Et la qualification passe de homicide ayant entraîné la mort sans volonté
homicide volontaire.
Et là c'est exactement l'inverse. Donc il y a quelque chose de paradoxal et de choquant, mais je crois que ça dit quelque chose sur le fonctionnement de la justice. Alors on dit beaucoup que c'est pas de la faute, pas seulement l'idéologie des juges, qu'il y a un problème de prison, il y a un problème de volonté politique, certes, mais là c'est quand même une décision des juges qui pose question. Et je pense qu'il y a des choses à revoir. Je pense que les juges sont jaloux de leur indépendance. C'est très bien que la justice soit indépendante, mais l'indépendance ne signifie pas l'irresponsabilité. Et donc je pense qu'il devrait y avoir, à la manière de la police des polices, une forme de justice des juges, que dans ce genre de cas, d'affaires emblématiques, certes...
Un IGPN pour les juges, c'est ça.
La famille va faire appel, mais il pourrait y avoir une autre autorité qui soit saisie pour voir pas forcément pour contester la décision, mais pour voir dans quel cadre elle a été prise, pourquoi. Donc ça, ce serait une avancée. Ensuite, je pense qu'il y a quand même un problème idéologique, je le disais, dans la justice. On voit bien que la harangue de Baudot, ce texte qui dit qu'il faut avoir un préjugé favorable pour le voleur par rapport à la police, pour l'ouvrier par rapport au patron, qui invite les juges à être partial, c'est une harangue qui est récitée à l'École nationale de la magistrature. Donc bon, il faut peut-être... Et donc toute la justice est tournée vers la réhabilitation des coupables. C'est une bonne intention, mais je crois qu'on devrait se tourner plus vers la victime et penser à la rédemption des familles. C'est pour ça que le témoignage de la veuve de Philippe Monguillot était très intéressant.
Julien Drey.
Moi, je crois qu'il ne faut pas tout mélanger. Et il faut laisser chaque affaire sa logique judiciaire. Parce qu'à chaque fois de dire, ah ben là vous avez fait ça, donc là vous devez faire ça, c'est pas comme ça que ça marche. La justice, ça marche à partir d'une instruction sur des pièces, sur des preuves, et chaque affaire a sa propre logique. Bon, donc c'est pour ça que je pense que c'est pas rendre service aujourd'hui de dire, vous avez, sur le pont neuf vous avez fait ça, alors là vous auriez dû faire ça. Parce qu'il n'y a pas d'automaticité, sinon il n'y a pas de justice. Sinon il suffit de dire, c'est des procédures où le juge n'a pas la liberté d'instruction. Alors après, attention, il y a une procédure, parce que là, il y a des faits, il y a une demande de requalification, mais en dernière analyse, il y a un procureur de la République qui va donner suite ou qui ne va pas donner suite. Donc, d'un certain point de vue, il y a la possibilité, d'ailleurs, la famille le sait, c'est pour ça qu'elle
elle l'a dit très clairement.
Elle va le faire. Elle va demander à ce que le procureur de la République ne suive pas les réquisitions du parquet ou la requalification qui est faite par le juge d'instruction. Voilà, alors après, je n'ai pas les détails. C'est vrai que ça a l'air choquant parce qu'il y a quand même, dans les deux cas, il y a quand même mort d'homme et que si on a la possibilité de lyncher quelqu'un et que finalement on s'en sort avec une peine à minima, ça choque et c'est vrai que ça donnera le sentiment, mais c'est ça qui m'ennuie, c'est qu'il y a des juges qui ne se rendent pas compte qu'en faisant ça, ils portent atteinte à l'institution judiciaire parce qu'ils ne lui rendent pas service, parce qu'évidemment ils créent le doute sur ce qui se passe et puis après évidemment il y a tous les discours sur le thème, vous êtes politisé, etc. Oui. Je ne suis pas sûr que le syndicat de la magistrature soit aussi fort et aussi puissant, vous voulez bien le dire, à l'intérieur de l'institution judiciaire.
Bon. Il y a le syndicat de la magistrature, mais c'est 20% quand même, donc ça compte, et il y a ce qu'on apprend à l'École nationale de la magistrature. Il y a aussi le fait, je trouve, qui est très symbolique, donc elle va être correctionnalisée, cette affaire, c'est-à-dire que... elle risque d'être correctionnalisée, d'accord, et donc ça devait passer devant... Si les présumés coupables ou les présumés innocents passaient devant une cour d'assises, ils devaient passer devant une cour d'assises, il y avait un jury populaire. Si ça devient de correctionnel, non seulement la peine est moindre, c'est 20 ans de prison maximum, mais il n'y a pas de jury populaire. Donc il y a aussi le sentiment que certains juges se méfient finalement du peuple, que le peuple serait populiste. Je trouve que c'est une affaire qui a déclenché une forte émotion populaire. Et donc du coup, on la soustrait à la justice populaire. Mais la justice populaire, c'est aussi la démocratie. Donc je trouve ça symboliquement très intéressant.
On peut avoir le jugement inverse. C'est qu'on peut avoir un magistrat qui se dit, vu que l'instruction est problématique et que j'y arrive pas, si j'envoie ça devant un jury populaire, on risque de se retrouver dans une situation où ces gens-là seront relaxés, où la peine ne sera pas prise en considération. Moi, ce qui m'intéresse dans ces cas-là, c'est que les juges parlent. Mm-hmm. Et c'est ça le problème qu'on a dans l'institution judiciaire. C'est que les juges ne parlent jamais. Donc ils ne disent jamais ce qu'ils font et pourquoi ils le font.
D'où l'idée d'une forme d'autorité qui est quelque chose de public sur les décisions qui parfois sont rendues.
Mais normalement, celui qui doit parler, c'est le procureur de la République, voilà, que le juge ne parle pas, oui, mais le procureur, il doit venir et dire, voilà, le juge m'a demandé ça, il a fait ça pour ça, et voilà pourquoi moi, je suis ou je suis pas.
Et ensuite, il y a quand même un problème de politique et de politique pénale, je dirais de politique en général, parce que si on correctionnalise aussi beaucoup d'affaires, il y a beaucoup de viols, qui passe en correctionnel, c'est parce que la justice, effectivement, là je pense que c'est pas le cas vu le caractère emblématique de l'affaire, mais manque de moyens pour travailler et que ça va plus vite en correctionnel. Justement, il faut pas réunir de jurés populaires, donc ça il faut régler ça. Et je disais un problème de politique pénale parce que les peines, alors dans les petits délits, il y a le problème qu'elles sont pas appliquées, et dans les affaires de meurtre, je trouve que les peines sont trop faibles parce qu'il y a un système de réduction de peine automatique. Il y avait une autre affaire à Nancy, d'une femme violée sous un couteau. L'auteur était meurtrier. Il avait été meurtrier. Il avait tué sa victime à 77 coups de couteau. C'était une femme de presque 80 ans. Il avait été condamné à 20 ans de prison, ce qui était déjà pas beaucoup. Avec les réductions de peine automatiques, il était en liberté au bout de 10 ans. Donc là aussi, il y a des choses à revoir. Ça veut dire que si vraiment ils vont pas aux assises, ceux qui ont lynché Philippe Monguillot, même s'ils font 20 ans maximum, s'ils ont la peine maximale, ils risquent de sortir au bout de 10 10 ans. Je ne crois pas que ce soit normal.
Moi, juste pour continuer. Alors, Julien, un dernier mot, après on avance.
Ça a été corrigé. Il n'y a plus automaticité dans la réduction des peines. Il y a une instance qui se réunit, qui évalue. Donc, ce n'est pas, pas vrai que...
Il y a les deux. La réduction automatique plus...
Mais l'automaticité des peines, ce qui est je veux dire, l'automaticité, elle joue en disant qu'on donne la possibilité d'eux. Mais ce n'est pas mécanique et automatique, c'est pas vrai.
Il y a une partie de mécanique qui se joue... par année.
Plus maintenant, ça a été corrigé par. Ça a été justement.
Vous regarderez, mais justement, ça a été corrigé par M. Dupond-Moretti. Après, moi, je pense que symboliquement, les peines doivent être exécutées et dire aux gens, finalement, si vous vous comportez bien, la peine sera moins lourde. Même symboliquement, c'est bizarre. Si vous voulez, moi, je me comporte bien. Dans la vie, se comporter bien, c'est la situation normale. Donc, quand il y a une peine, il faut qu'elle soit exécutée. C'est la crédibilité de la justice.
Ça amène à vous parler d'un autre fait qui s'est passé à Marseille, l'agression au couteau d'un agent dans un centre de vaccination. Le suspect a 55 ans, il se trouvait dans la file d'attente à l'extérieur du centre. Il avait déjà 14 condamnations à son actif et il présenterait des troubles sur le plan psychique. Alors pourquoi était-il en liberté ? Réponse avec Sandra Buisson et puis on en reparle.
Ce matin, peu après 8 heures, un homme était en train de faire la queue devant un centre de vaccination du 5e arrondissement de Marseille et sans motif apparent. Il a alors brandi un couteau, s'est dirigé vers l'agent de sécurité et l'a poignardé à l'épaule, le touchant à une artère. Le pronostic vital de la victime est engagé. Le suspect, âgé de 55 ans, a été interpellé et placé en garde à vue, mais il présenterait des troubles psychiques, selon le parquet. Cet homme a déjà eu affaire à la justice. Il a fait l'objet de 14 condamnations dont nous n'avons pas les qualifications, à part la dernière qui concernait des faits de rébellion, mais qui date de plusieurs années déjà. Les motivations de son geste ne sont pas encore déterminées, mais en l'état, rien n'oriente l'enquête sur la piste d'un acte terroriste. L'enquête est ouverte pour tentative d'homicide.
Là encore, Julien Drey, on est sur un parcours de récidive, de délinquance qui n'a pas pu être stoppé par la justice.
Oui, mais là, on est plus dans les problèmes aujourd'hui de ce que représente la psychiatrie en France.
Et le discernement.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de place dans les hôpitaux psychiatriques et que c'est vrai qu'on a un certain nombre de gens qui sont des gens en grande difficulté et qui sont en liberté, qui ne sont pas suivis comme il le faut. Et ce n'est pas la prison qui peut régler ça. On avait avant une psychiatrie qui était exemplaire en France. On a fermé des hôpitaux, on a fermé des postes. Maintenant, justement, on se débarrasse des gens à problème dans les prisons et l'administration pénitentiaire, elle ne sait pas gérer des profils comme ça, parce que c'est un traitement très particulier. Donc là, on est plus dans des problèmes psychiatriques avec des instruments qui sont plus adaptés à ce type de personnalité-là. C'est-à-dire que la prison, elle devient un dépotoir où on met tout le monde. Voilà.
Non, mais ça, je suis d'accord avec ça. Il y a un problème avec les hôpitaux psychiatriques en France qui sont débordés. C'est le problème des politiques budgétaires, y compris avec les prisons, où, parce que ça coûte cher de faire des prisons, on n'en fait pas. Et à la fin, ça coûte beaucoup plus cher, je crois, à la société, puisque ça fait des dégâts terribles.
Allez, on va regarder quelques minutes pour parler de l'Ukraine, si vous le voulez bien. Il y a beaucoup d'incertitudes sur le sort des soldats ukrainiens qui ont été évacués de l'usine Azovstal à Mariupol. C'est 1730 soldats qui ont été évacués vers des territoires russes. On espère que certains d'entre eux pourront être échangés avec des prisonniers ukrainiens. En tout cas, la Russie, elle, affirme vouloir les juger pour ce qu'ils ont fait. Julien Drey, est-ce qu'il faut faire des héros de ces soldats qui se sont battus jusqu'aux dernières limites ? Ou est-ce que vous nuancez un tout petit peu votre jugement sur ce fameux bataillon Azov qui était présent à Mariupol ?
Le bataillon Azov, il a une mauvaise réputation. Il était plutôt marqué à l'extrême droite, avec un certain nombre de soldats qui avaient eux-mêmes des insignes paramilitaires des armées nazies, des choses comme ça. Bon, quand ils étaient à la place Maïdan, parce qu'une grande partie de ceux-là étaient à la place Maïdan, je peux vous dire que c'était pas des gentils héros positifs à cette époque-là, en tout cas de ce que j'avais vu. Bon, là, ils ont effectivement...
C'est-à-dire qu'ils étaient en pleine action contre les manifestants.
Non, ils étaient en train de tenter de renverser le gouvernement légitime ukrainien. Mais ils étaient sur une logique qui était une logique paramilitaire d'extrême droite. Voilà. Après, ils ont continué, ils se sont reformatés en bataillon, ils ont été combattre dans le Donbass, et ils se sont livrés à un certain nombre d'exactions. C'est pas vrai qu'ils c'était pas un gentil bataillon. par la suite, ils se sont gonflés avec l'offensive militaire, puisqu'ils ont accueilli toute une série de gens qu'ils ont embauchés, qu'ils ont formés. Voilà. Donc là, effectivement, ils ont résisté. Maintenant, il faudra, si vous me permettez, à un moment donné, qu'on clarifie les informations qu'on a. Parce que moi, je suis plus capable de comprendre. Un jour, on me dit il y en a 2000, après, on me dit il y en a 1000, puis un jour, on me dit ils sont rendus, puis un autre jour, on me dit ils ne sont pas rendus. Il y a une pléthore d'informations qui laisse à penser que je ne sais pas qui donne la réalité des choses. Bon, ils sont évidemment battus dans cette usine. Ça a été un point de fixation qui a paralysé l'armée russe dans son offensive. C'est clair que de ce point de vue-là, l'Ukraine va les considérer comme des héros.
Alexandre Devecchio ?
Non, mais je suis d'accord avec Julien Drey. Effectivement, ça nous rappelle qu'une guerre, c'est pas manichéen. Il y a le bataillon Wagner d'un côté, le bataillon Azov de l'autre. Et effectivement, c'est un bataillon qui sévit depuis très longtemps. Et peut-être que l'Europe, qui est souvent attentive aux droits de l'homme, etc., aurait pu avoir des dirigeants qui se manifestent sur la situation dans le Donbass avec les exactions qui ont été menées. Parce que c'est aussi ça qui permet à Vladimir Poutine de dérouler la propagande qu'il déroule en Russie. Quand il parle de dénazification de l'Ukraine, évidemment, l'Ukraine n'est pas un État nazi, ses dirigeants ne sont pas nazis, etc. Mais il y a quand même ce bataillon-là, et je pense qu'il faut toujours dire toute la vérité, parce que c'est plus clair, et ça évite justement aux gens qui voudraient instrumentaliser les choses de le faire, et donc c'est facile du coup pour Vladimir Poutine d'instrumentaliser ce bataillon-là.
L'Europe a beaucoup de mal à exister dans tout cela, Julien Drey.
Oui, mais l'Europe, elle devrait interpréter les signes qui s'accumulent. Je maintiens qu'il y a un certain nombre de signes qui sont en train de s'accumuler depuis début mai, qui montrent que la Russie est en train progressivement de chercher une issue à cette crise. Cette issue, il faut être capable à un moment donné de la comprendre et de formaliser, ça c'est le rôle des diplomates, un certain nombre de propositions. On peut pas continuer dans une sorte de fuite en avant. On voit bien que l'affaire suédoise finlandaise, c'est-à-dire l'installation des bases de l'OTAN, va être mal interprétée par la Russie, qui va dire, voyez bien, il est sûr que Monsieur Poutine va se servir de ça pour dire, regardez, ils attendaient qu'une occasion pour nous entourer par des bases de missiles et se préparer, d'un certain point de vue, à nous faire la guerre. Même sur l'affaire du bataillon Azov, le fait que les Russes aient autorisé ces soldats à se rendre, alors on espère qu'ils vont pas aller les massacrer comme ça s'est fait pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand on recueillait ceux qui se rendaient, mais je crois pas qu'ils vont faire ça, enfin j'espère. Je prie, comme dirait l'autre, qu'ils ne le fassent pas. Je pense plutôt qu'ils vont faire un procès pour montrer qui était un certain nombre de ces gens-là, qui vont s'en servir dans leur propagande. Mais le fait qu'ils aient accepté cette reddition dans cette forme-là montre, alors je sais, ça peut paraître surprenant, mais que c'est des signes imperceptibles qu'il y a une tentative de la part de M. Poutine de sortir d'une impasse dans laquelle je crois qu'il sait maintenant qu'il s'est mis.
Alors je voudrais juste qu'on écoute un soldat russe qui a été capturé par les Ukrainiens. Son procès a démarré cette semaine à Kiev. Il est accusé d'avoir tué un civil, un homme de 62 ans qui était sur un vélo, un civil désarmé. Écoutez, il a aujourd'hui demandé pardon pour le crime qu'il a commis. Écoutez ce soldat russe.
Je plaide coupable. Je sais que vous ne pourrez pas me pardonner, mais néanmoins, je vous demande pardon pour tout ce que j'ai fait.
Alexandre Devecchio, est-ce que c'est pareil là, c'est utilisé dans un but de communication ?
J'en sais rien, mais je me méfie toujours de ces images et de ces procès en pleine guerre, si vous voulez. Après la Seconde Guerre mondiale, on a fait des procès d'épuration lapidaires. C'était pas forcément en notre honneur. Je dis pas que c'est la même chose, mais je dis que voilà, je pense qu'il faut laisser du temps au temps. Il faudra sans doute faire des procès avant cette guerre, mais là, c'est très difficile de voir si justice a été rendue ou c'est vengeance qui a été rendue, ce qu'on peut comprendre d'ailleurs.
Après la Seconde Guerre mondiale, ce qui a manqué, c'est qu'il y ait des procès. Puis on a fait quelques procès exemplaires, puis on a laissé passer.
Il faut la justice et pas la vengeance.
Qui sont passés, qui ont même été protégés, qui ont pu s'échapper et des tortionnaires, on ne peut pas attribuer à la justice de la Seconde Guerre mondiale une exemplarité dans le traitement de tout ça.
Exactement. Bon,
par contre, vous avez raison sur une chose, ces images-là, elles sont dérangeantes, parce qu'on ne sait pas ce qu'il en est. Mais c'est aussi les horreurs de la guerre, c'est-à-dire un jeune qui n'a rien compris, qui devient un assassin, et qui est pris et broyé par cette guerre. Mais j'insiste, ça révèle cela, que l'opération de M. Poutine, elle n'était pas préparée. Et qu'il a, je suis à peu près certain, on voit maintenant comment ça se délie un certain nombre de langues en Russie. On voit qu'il a été mal informé par ses services de sécurité. Il y en a d'ailleurs qui sont aujourd'hui en prison. Qu'il a cru qu'il allait être accueilli comme un sauveur. Il n'est pas accueilli comme un sauveur. Que ses soldats ne savaient pas où ils allaient. Et donc c'est tout ça qu'il faut maintenant essayer de remettre en perspective. La bonne formule pour l'Europe, c'est qu'elle nomme deux ou trois diplomates et qu'ils fassent leur travail de diplomate. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire de tambour et trompette, il s'agit de se mettre autour d'une table, d'y passer des heures et des heures et trouver la solution. Et c'est ça le rôle de la diplomatie maintenant.
En allant voir Poutine.
En allant voir M.
Poutine. Avec lui. Voilà. Par tous les biais possibles.
Il y a un débat. J'ai tendance à penser comme Julien Drey. Il y a ceux qui expliquent qu'on a été trop faible avec Vladimir Poutine et qu'il ne comprend que le rapport de force. C'est possible, mais il est aussi possible qu'effectivement, il se soit lancé dans une guerre aventureuse, qu'il soit dos au mur et qu'il y ait une fenêtre pour une négociation. Et moi, je suis plutôt partisan qu'on sorte de cette guerre le plus vite possible parce que personne n'a gagné à un enlisement. Ça ferait énormément de morts. Et surtout, ça nous met devant le risque d'escalade. Parce que si justement Vladimir Poutine ne connaît que le rapport de force, si il est dos au mur et s'il a plus d'issue dans cette guerre, eh bien on peut avoir des dérapages. En tout cas, c'est ce que certains pensent. Je pense à Henri Guénaud qui a dit que nous marchons comme des somnambules vers la guerre. Il y a une interview qui va sortir de Jean-Pierre Chevènement dans le Figaro. Il dit qu'une escalade est tout à fait possible. Voilà, c'est un risque. Et je pense que c'est pas capituler en rase campagne devant Poutine que de chercher une issue diplomatique.
Non, mais je signale qu'on a tracé un portrait de Poutine ces dernières semaines. On a l'impression qu'il était totalement malade, qu'il avait la maladie de Parkinson, qu'il était occupé de rien. Puis quand vous regardez bien les images, vous avez l'impression d'un personnage qui est pas à l'agonie. Alors il est peut-être bien shooté par les médecins russes, tout ce que vous voulez. Donc ce portrait-là n'est pas le bon. C'est un cynique, c'est sûr. Il se comporte de manière dictatoriale. Mais en même temps, je pense qu'il sait quels sont les rapports de force. Et il n'est pas stupide. Son histoire politique montre qu'il est tout sauf stupide. Et donc, il sait quels sont les rapports de force et il va en tirer des conséquences. C'est le moment où il faut saisir ces opportunités-là, parce que sinon, après, on ne sait même pas ce qui se passe à l'intérieur de l'état-major russe. Mais il y a une partie de l'armée russe qui ne va pas supporter longtemps d'être humiliée comme elle l'a été.
Merci beaucoup Julien Drey, Alexandre Devecchio pour ces débats dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews. Je vous retrouve dans un instant sur Europe 1 pour la suite de Punchline. Et tout de suite sur CNews, c'est Christine Kelly et ses invités pour Face à l'Info. Bonne soirée sur nos deux antennes.
Europe 1. Punchline, Laurence Ferrari.
On se retrouve dans Punchline sur Europe 1 avec nos débatteurs. Louis de Ragnel est là, bonsoir.
Bonsoir chère Laurence.
Politique d'Europe 1. François Buponi, député territoire de Progrès du Val-d'Oise, merci bonsoir, d'être Laurence. Avec nous. Bruno Jeudy de Paris Match, bonsoir Bruno.
Bonsoir.
Gilles Mintré, essayiste, président d'Electis. On va parler politique évidemment. Dans un instant, on écoutera Elisabeth Borne, première prise de parole pour la Première Ministre face à des femmes. On écoutera Emmanuel Macron qui va nous demander un peu de patience. Enfin messieurs les journalistes, vous êtes tellement pressés d'avoir ce nouveau gouvernement, il faut encore le temps de le constituer. Mais d'abord, peut-être un petit éclaircissement à propos de la situation de Damien Abad, qui quitte la présidence des députés LR à l'Assemblée nationale, qui se met en congé du parti. Il dit « Je reste un homme de droite, mais je ne me reconnais plus dans la démarche des Républicains. » Un tout petit mot de chacun. Bruno Jeudy, c'était annoncé de longue date, mais ça a mis du temps hein, à sortir.
C'est-à-dire que là, pour le coup, c'est Christian Jacob qui l'a contraint et forcé de clarifier avant la fin du dépôt des candidatures aux législatives, c'est-à-dire le 20.
Demain soir.
Comme,
est-ce qu'il Damien voulait jouer double jeu jusqu'au bout, vous croyez ?
On ne savait plus trop, parce que Damien Abad n'a pas de candidat d'ensemble ou Renaissance, enfin face à lui, et du coup il y avait cette espèce de double jeu qui s'installait d'une personnalité, d'un dirigeant des Républicains et non des moindres, le président du groupe LR des députés sortants. Christian Jacob qui, lui, n'est pas vraiment dans le double jeu, aime les jardins à la française, c'est-à-dire bien taillés.
Ben,
il n'a pas donné le choix. Et il a fait un communiqué très sévère cet après-midi, ouais, où il a quasiment anticipé la décision. Damien Abad fait clarifie dans le Figaro qui donne des éléments de son interview ce soir sur le web. C'était attendu.
Oui.
C'est un peu traîné, objectivement.
C'est une trahison, Gilles Mintré.
En tout cas, on voit bien que Damien Abad a joué, a essayé de louvoyer jusqu'au bout, puisque Christian Jacob disait sur France Info que Damien Abad lui aurait demandé d'attendre encore jusqu'à la nomination du gouvernement, pour vraiment bien être sûr, parce qu'effectivement, s'il est au gouvernement, ça pose problème, mais s'il n'y est pas, peut-être que ça passe. Donc, on sent qu'il y avait du louvoiement. Damien Abad, en fait, c'était le seul député LR du paquet Sarkozy, en fait. Hein. Souvenez-vous, le fait qu'on avait appelé le paquet Sarkozy, c'était 50 députés LR qui était censé ne pas avoir de candidat.
Constance Le Grip.
Non, attendez. Ce que j'appelle le parquet Sarkozy, c'est vous restez LR et vous n'avez pas de candidat En Marche devenu Renaissance en face.
En face, ouais.
Le paquet Sarkozy, c'était pas vous passer.
Je crois qu'il y en a trois ou quatre à l'arrivée. Oui. Quand même.
Mais non, parce que Constance Le Grip.
Il y en a d'autres. On rejoint ensemble. Oui, oui, mais il y en a dans la Sarthe. Je crois qu'ils sont, sont deux ou trois, Louis.
En tout cas, les 50, voilà, se sont réunis.
On retient le nom d'Abad.
On retient le nom d'Abad. C'était devenu le symbole de cette promesse qui s'était réduite à pratiquement rien. Et puis finalement, qui saute elle aussi parce que. Il y a eu une opération de clarification des LR.
Louis de Ragnet, c'est un poison lent, là, quand même. Ça a pris du temps.
Ah, ça a pris du temps, parce qu'en fait, en réalité, ça a commencé il y a 4 ans et demi. Bien sûr, au lendemain de l'élection d'Emmanuel Macron, celle de 2017, avec Damien Abad, qui, ça ne s'est jamais vraiment su publiquement, mais aurait rêvé entrer, dès le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, dans le gouvernement, avec ses amis, notamment Gérald Darmanin, et puis Sébastien Lecornu, notamment.
Bruno Le Maire, dont il était très proche, il était son porte-parole pendant la campagne de la primaire.
Donc il espérait que ça puisse se faire, et donc en fait, là, la mécanique s'est un peu inversée. Il a été pris aussi, ça s'est un peu retourné contre lui, parce que lui espérait de tout cœur qu'Emmanuel Macron annonce son gouvernement aujourd'hui ou demain, et que la clarification se fasse d'elle-même avec cette promotion, une entre-gouvernement. Et patatras, ça s'est pas du tout passé comme ça. Et donc, il était en train d'essayer de gagner du temps, ce qui est quand même hallucinant. C'est-à-dire qu'il demande un peu plus de temps à un parti politique qu'il est en train de trahir. Et comment est-ce que le parti politique, les Républicains, auraient pu accepter ? Donc c'est un peu la question que je me pose par rapport à lui. Et ensuite, aujourd'hui, il est dans une situation un peu vulnérable, parce qu'il n'est pas entré au gouvernement. Il n'a pas encore vraiment d'étiquette, donc il va devoir faire campagne. Enfin, pour l'instant, il doit faire campagne. On attend la composition du gouvernement. Mais s'il n'est pas dans la première mouture du gouvernement, vous savez, c'est en deux fois, il y a la première mouture là, dans les prochains jours, et la seconde après le législatif, eh bien, il va être dans une situation un peu compliquée. Et ce qui complique encore plus la chose, c'est que ce n'est pas rien. Bruno Jeudy l'a très justement rappelé. C'est
juste un point, quand
le
même,
patron des députés LR.
Juste quand même un point, c'est qu'ils aient, alors évidemment, ceux qui sont investis sous la bannière de la majorité présidentielle ou future majorité présidentielle, la situation est clarifiée. Abad n'étant pas investi sous la bannière Ensemble, la contrepartie quand même qui a été, il le sait, la contrepartie c'est que il siégera dans un groupe de la majorité. Mm-hmm. Ça c'est Richard Ferrand vous dit, donc alors, les choses étaient assez claires, donc la clarification s'imposait.
François Pupponi, vous qui êtes de la majorité présidentielle.
De fait, il va être le candidat de la majorité officiellement maintenant. Bon, la vraie question c'est est-ce que les LR vont être capables de déposer d'ici demain soir une candidature LR contre lui.
Ils la trouveront, je pense.
Ils la trouveront, oui, ils la trouveront. Enfin bon,
Je pense que c'est un peu tard.
Enfin, c'est pour ça qu'il a tendu, en espérant que, bon, ils peuvent, hein, ils trouver deux candidats, bon, un peu rapidement, bon, et qui acceptent d'être candidat avant demain soir. Bon, la vraie question, lui, dans un département très à droite, quand même, hein, c'est hard, hein, bon, pour la droite, pour
Lyonnais. Trois députés, un seul de la majorité présidentielle, deux républicains.
Très compliqué pour la majorité présidentielle. Donc, là, il peut, entre guillemets, tout perdre. Hein, parce que, d'abord, il a quand même le sentiment d'avoir trahi. Éric Woerth, c'est un peu différent. Parce que depuis 3-4 ans, président de la commission des finances, il disait qu'il n'était plus en phase. Il avait annoncé plus ou moins, et puis il l'a annoncé très vite. Bon, pendant la campagne présidentielle. Damien Abad, il a tenu. Il a espéré. Alors, il attendait la nomination du gouvernement. Il attendait surtout le vendredi 20 mai à 17h qu'on ne puisse plus déposer de candidat contre lui. Parce que c'est ça son risque à lui, c'est qu'il ait un candidat contre lui. S'il a un candidat contre lui avec l'étiquette trahison, puis l'étiquette majorité présidentielle, sans être investi vraiment, parce que, sauf s'il investit au dernier moment, mais voilà, après, il faut déposer, quasiment les bulletins de vote doivent être déposés déjà, donc il aura un peu de mal à l'afficher officiellement, il va être dans une situation compliquée.
Bruno Jeudy.
C'est-à-dire
qu'en même temps, voilà, c'est.
Bon, voilà, c'est fin
un cas.
C'est quand même une prise de guerre pour Emmanuel Macron. C'est d'accord. Le président des députés républicains sortant. Donc c'est quand même pas. Il présidait un groupe de 101 députés
d'opposition. Le premier groupe
d'opposition. Donc c'est une prise de guerre. C'est incontestable. Et on voit bien que Emmanuel Macron, jusqu'au bout. D'abord, il y en a beaucoup. Il y en a quelques-uns qui espéraient être dans la situation d'Abad, qui n'ont pas eu cette situation. Confère Guillaume Larrivé, qui a fait des pieds et des mains justement pour bénéficier de cette l'absence d'un député d'un candidat macroniste. Donc non, Abad, c'est une prise de guerre. C'est pas une surprise, parce que lors du remaniement de juillet 2020, il avait été beaucoup en coulisses, on avait beaucoup dit qu'Abad aurait pu rentrer à ce moment-là dans le gouvernement de Jean Castex. Ça ne s'est pas fait à ce moment-là. Lui a beaucoup démenti, mais en réalité, il s'était rapproché de l'Élysée, il y a eu des contacts. Bon voilà, on sait qu'en coulisses, qu'en coulisses, il y a un conseiller qui s'appelle Thierry Solaire, qui est député
des qui est chargé du débauchage.
Qui est chargé du débauchage.
Et des voilà, des et hommes voilà, de droite et des femmes de droite.
Guerre, sur la prise de guerre, ils ont quand même pris le président du groupe, du premier groupe d'opposition. Et le rapport et le président de la commission des finances qui l'est parce que justement il était issu du groupe d'opposition.
Il prend les deux leaders.
Les républicains disposaient de trois grands postes à l'Assemblée, le président du groupe évidemment, le président de la commission des finances et la première vice-présidente de l'Assemblée, Annie Genevard, qui elle reste sous les couleurs des républicains.
Enfin, une phrase quand même pour rappeler les chiffres hein, sur les 101, enfin ou 101, 103 députés LR, il y en a 5 qui sont partis dans le parti présidentiel. Hein, les quatre qui ont changé de plan.
L'opération Sarkozy n'a pas fonctionné.
Non, Sarkozy n'a pas fonctionné. Et puis par ailleurs, les Républicains, pas, qualité, on parle de prise de guerre, effectivement, c'est quelqu'un d'important, mais les LR ont tenu.
Voilà, une petite pause. On se retrouve dans un instant, on parlera d'Emmanuel Macron et on écoutera surtout Elisabeth Borne qui s'est adressée à des jeunes femmes aujourd'hui au Muro. A tout de suite.
Punchline sur Europe 1, Laurence Ferrari.
On se retrouve dans Punchline sur Europe 1 avec Louis de Ragnel, avec François Pupponi, Bruno Jeudy et Gilles Mintré. On va écouter Emmanuel Macron cet après-midi à l'Élysée. Un peu de patience, messieurs les journalistes, sur la formation du nouveau gouvernement.
Le travail continue de manière sérieuse, mais ça n'est pas une chose légère. Elle requiert du temps, des échanges de fonds. Donc autant de temps qu'utile et que nécessaire, car il s'agit du gouvernement de la France.
Bruno Jeudy, effectivement, il prend son temps, le moins qu'on puisse dire. Marine Le Pen est très sévère hein, sur le fait qu'Emmanuel Macron prenne trop de temps et soit un signe de mépris, au fond.
C'est vrai que ce temps-là qui s'étire, trois semaines pour nommer un Premier ministre, probablement la semaine, maintenant on est jeudi, ce sera demain au mieux, une semaine de plus. Alors on voit bien le côté tactique aussi du président, on mange comme ça la campagne législative, hein. on est à 25 jours du premier tour, là. On a mangé quasiment une partie de la campagne législative, il y avait 50 jours après son élection, il a déjà mangé la moitié du temps. Bon, je suis pas sûr que les Français soient si impatients que ça de connaître les noms des ministres. En général, ils en retiennent 4 ou 5. Les autres, ils les croiseraient dans la rue, ils sauraient même pas qui c'est. Bon, passons. Mais ils s'exposent à la critique politique, à la critique de ses opposants. Et quand Marine Le Pen dit c'est du mépris, pendant qu'Emmanuel Macron cherche à faire un gouvernement, et les Français, eux, ils sont confrontés à leur problème de pouvoir d'achat, le prix de l'essence, et d'autres problèmes, bon, ben voilà, il donne aussi des armes à ses adversaires. On peut dire ça. Donc, je ne sais pas s'il fait la balance entre les deux, manifestement.
Ou s'il a un problème de casting, tout simplement, non ? Vous ne croyez pas ?
Je ne suis pas sûr qu'il y ait un problème de casting.
Je
crois que cette fois-ci, on n'est pas en 2017. En 2017, l'idée, c'était la société civile qui s'installait au poste de pouvoir. Cette fois-ci, on voit bien qu'on va avoir 80% d'hommes et femmes politiques assez classiques, des sortants, des gens qui étaient à l'Assemblée, des gens qui viennent de la
droite. Ça se bouscule plutôt au portillon, François ?
Oui, non, il n'a pas de problème de casting. Oui. Il a le choix, il a été réélu pour 5 ans, il a été élu largement, donc il a le choix. Il va prendre... Non, là, il prend son temps. Parce que l'élection législative a lieu plus tard que d'habitude après l'élection présidentielle. Il prend son temps pour sortir un gouvernement, que ça se passe bien, et éviter, entre guillemets, les quelques couacs hein, qui peuvent toujours arriver. Rappelez-vous la TVA sociale de Borloo, jour 11 heures. Il a pour l'instant la quasi-certitude d'avoir une large majorité à l'Assemblée nationale. Donc voilà, on y va tranquillement. Le gouvernement sortira dans la semaine et puis voilà, on terminera la campagne électorale. Pour l'instant, il n'a pas de risque, mais il ne faut pas faire de faute.
Alors, Louis Dragnel, ensuite Gilles Mintré.
Alors, ce que vous dites, non, mais c'est intéressant, mais c'est un peu la jolie version qui est présentée. Il y a après l'autre côté qui est Emmanuel Macron, dans tous les remaniements, les choix d'équipe, a toujours mis un temps infini pour parfois proposer un gouvernement qui n'a rien de très transgressif. On se souvient, par exemple, du temps qu'avait mis Emmanuel Macron pour choisir un ministre de l'Intérieur, il y avait eu deux semaines ou trois semaines, un mois. Tout ça pour terminer avec Gérald Darmanin qui rêvait du poste et ça paraissait assez évident. Emmanuel Macron, avec les ressources humaines, c'est là où, d'ailleurs, ses équipes, ses collaborateurs le disent. Il met un temps fou à décider, à trancher. C'est le sujet avec lequel il a le plus de mal. Il a beaucoup de mal à constituer des équipes. Il a du mal à choisir son équipe. Il a aussi du mal à s'en séparer, parfois. Donc, c'est quand même lié à sa personnalité. La deuxième chose, c'est qu'il cherche des femmes. Et ça, pour le coup, c'est un vrai sujet. Moi, il y a plusieurs personnes, notamment à l'Élysée, qui m'expliquaient là cet après-midi. Il y a des hommes, ça, il y en a plein. trouver des femmes, il y en a peut-être trop à votre goût, mais voilà, trouver des femmes au bon endroit pour, et vraiment avec des postes équivalents, c'est un peu
et
ce que disait Jacques Seret tout à l'heure dans le journal, et c'était très juste. Et puis la dernière chose, je rejoins Bruno Jeudy sur le temps infini. Le premier effet, bien sûr, c'est de lasser éventuellement les journalistes politiques, mais ça, on s'en fiche, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Le deuxième effet, c'est aussi de laisser entendre aux Français, ils finissent par s'en désintéresser complètement, et puis le jour où ça survient, il n'y a pas forcément d'intérêt. L'avantage, quand vous nommez un gouvernement très rapidement, vous les envoyez au feu, au charbon, vous essayez de montrer que vous occupez le terrain, et là, ça peut peut-être, ça a parfois fonctionné avec d'autres présidents de la République, ça peut créer un électrochoc dans l'esprit des Français, il y a des gens qui peuvent se dire « Ah bah tiens, c'est intéressant parce que tel ministre se saisit de tel sujet », et ça crée une dynamique, une impulsion. Et là...
Ou ça crée
il y a des contre-exemples, je le reconnais.
Je pense qu'il faut prendre le risque.
Alors, mais du coup, là... Une espèce de pâte à modeler un peu fade, quoi. On sait pas trop, vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu mou, on sait pas très bien où on va, et donc, et l'effet produit au moment de l'annonce du gouvernement qui interviendra peut-être, sans doute, à la fin du week-end, je suis pas sûr que ça intéresse beaucoup les Français.
Alors, s'il m'intrigue, on a entendu là-dessus.
On sent qu'il veut pas se rater. C'est entre la présidentielle et la législative, le principal coup, au sens noble, hein, je veux dire, le principal acte politique que va faire Emmanuel Macron, c'est de nommer ce gouvernement. Il a commencé avec la Première Ministre. L'effet « waouh » n'a pas vraiment pris. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'elle a 12 points de moins de satisfaction que n'avait Édouard Philippe quand il a été nommé. Que bien sûr, c'est une femme, c'est historique, mais on voit que 2 Français sur 3 considèrent que c'est secondaire. Non pas que ce soit négatif, mais que dans le fond, ce n'était pas la première chose qu'ils attendaient. Donc, bon, il a pas raté. Il l'a nommé pour ses compétences. Mais on sent bien qu'il va falloir créer quand même du désir politique. Et puis il a parlé d'une nouvelle gouvernance, d'une nouvelle façon d'agir. On voit bien que ce n'est pas Elisabeth Borne qui l'incarne par son parcours plus administratif. Donc il va falloir trouver quelque chose qui donne de l'élan, qui donne de l'envie, parce qu'il y a législative, il faut, même si tous les sondages lui donnent, il faut les gagner, ces législatives, il faut qu'il ait sa majorité.
Vous n'êtes pas d'accord, Bruno, je dis.
Non, je vois pas beaucoup de têtes nouvelles, de sociétés civiles. Je pense qu'il essaie plutôt de garder les plus professionnels. C'est ce qu'il veut constituer, des professionnels venus de la gauche, de la droite, des sortants solides. Il y en a quand même, il y a des bons sortants. Donc en fait, il essaie de constituer un pack comme ça assez solide. Alors c'est vrai qu'il y a la question de la parité toujours, qui est un des points faibles de dans le camp macroniste. Mais je crois que c'est ce qu'il vise. Il vise l'impression de donner, vous savez, on disait de l'équipe Jospin que c'était un gouvernement
Dream Team.
La Dream Team. Bon, là, il essaie de constituer un gouvernement professionnel. En 2017, il joue à fond la nouveauté, il joue à fond les nouvelles têtes, la société civile. Là, cette fois-ci, il fait ça. Je pense qu'il sait que les législatives vont être difficiles, il va les gagner. C'est vrai que ce qu'il joue là, c'est plutôt la
continuité, l'expérience.
Oui, et puis quand même...
D'ailleurs,
certains ministres d'expérience savent qu'ils sont reconduits. Ça,
Gérald Darmanin le sait.
Il ne peut pas se passer la ministre de l'Intérieur qui connaît un peu, pendant l'élection, un peu la situation. Le ministre des Affaires étrangères a quand même un rôle à jouer dans le contexte actuel. Le ministre des Armées... Enfin voilà, il y a quand même quelques sujets qui font que...
Donc vous pensez que ces trois ministres-là seront reconduits?
Le ministre des Armées, pour le coup,
il y a quelques ministres où il faut des gens d'expérience parce que la situation de crise fait que bon, après effectivement il faut un casting, faut aussi des gens qui vont être entre guillemets réélus, ceux qui se présentent, parce que le couac de dire je présente un ministre et puis 15 jours 3 semaines après il est battu, bon voilà, donc il faut regarder aussi,
ça s'est produit aux élections intermédiaires et il n'y a pas eu de
tellement d'enseignements. Oui, mais
parfois, c'est arrivé.
Ça avait été dur, d'ailleurs.
Oui. Généralement,
perdu aux législatives.
Ça serait bien perçu. Quoi.
Oui, bien sûr, il ne faut pas perdre. Les ministres qui sont engagés, la plupart des ministres sont engagés dans des élections. Certains, c'est la première fois. Certains, ils vont sur des circonstances compliquées.
C'est difficile, oui.
C'est vrai. Elisabeth Borne se lance. Elle-même, elle se lance pour son première élection. Elle est dans une circonscription qui semble quand même assez difficile à perdre. Si jamais elle perdait, là, il y aurait beaucoup de monde qui perdrait. Mais bon, ça reste une élection. Il faut quand même la gagner. Et donc,
Le seul couac, entre guillemets, qui puisse lui arriver, c'est une nomination où il n'y a pas un effet wow exceptionnel. Et puis, 2-3 prises de parole derrière qui font perdre les quelques points. Pour l'instant, il a de la marge, mais les quelques points qu'il ne faut pas perdre.
Gilles Mintray.
Non, mais moi, je pense que, comme d'habitude, Emmanuel Macron va quand même surprendre. C'est-à-dire que, bien sûr, qu'on sait, un certain nombre de ministres l'ont dit eux-mêmes, donc avec sans doute des assurances, qu'ils seront encore là, et avec une fidélité. Mais il a tellement clamé au moment de son élection qu'on allait avoir une nouvelle gouvernance, une nouvelle façon, qu'il va falloir qu'il trouve. Et d'ailleurs, il y a des noms qui sont sortis il y a quelques jours. On parlait de Thierry Déo, etc., qui viendrait sur l'écologie et l'environnement. Voilà un profil complètement inattendu. Donc, il y a des profils inattendus qui sont aussi scrutés en ce moment. Donc, on va voir ce qui sort.
On va faire une toute petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline. On écoutera Elisabeth Borne, qui était au Mureau cet après-midi. À tout de suite.
Punchline sur Europe 1, Laurence Ferrari.
De retour dans Punchline sur Europe 1 avec Louis de Raguenel, François Pupponi qui est député, Bruno Judith Paris Match et Gilles Lintré qui est essayiste. On va écouter Elisabeth Borne, premier déplacement de la Première Ministre, aujourd'hui au Mureau, auprès de jeunes femmes, sur la question centrale de l'égalité des chances. Écoutez ce qu'elle dit à la fois à ces jeunes filles et ce qu'elle livre de son parcours personnel.
Dans mon parcours, en fait, moi je dois tout finalement à la République, à notre pays. Et donc c'est pour ça que ça me tient à cœur que cette chance qu'on peut avoir dans notre pays de réaliser ses rêves, de trouver le métier qui vous plaît, d'être accompagné pour le réaliser, malgré effectivement le fait qu'on n'a pas les réseaux, on n'a pas les codes et on n'a peut-être pas eu la bonne adresse, mais que tous les jeunes et toutes les filles en particulier puissent en bénéficier.
Louis de Raguenel, c'est à la fois quelque chose de personnel et en même temps, elle a vraiment placé son action sous ce sceau-là de la lutte pour l'égalité des chances entre les femmes et les hommes.
Absolument. Alors, c'est beau, hein, c'est touchant.
On ne vous sent pas super touché.
Non, mais j'ai rien à dire par rapport à ces...
On ne peut
qu'acquiescer.
Soyez sincère. Hein.
Mais je suis très surpris et très étonné de voir... Si vous voulez, elle a besoin de se faire connaître. Elle a besoin
de montrer...
Tout le monde dit qu'elle n'est pas assez politique. Tout le monde dit qu'il faut qu'elle montre à quel point elle peut tenir une majorité. On l'attendait peut-être sur un déplacement un peu plus
politique.
Un peu plus punchy, un peu plus politique. Et effectivement, là, c'était un tout petit... quelque chose comme ça, un petit déplacement pour aller rencontrer quelques personnes.
Mais c'est
quelques femmes, pardon, mais des personnes peuvent être des hommes ou des femmes.
C'est un petit truc, donc.
Vous voulez me faire dire ce que je n'ai pas dit. Je dis simplement que voilà, elle est attendue sur quelque chose de très politique. Mmh. Il va falloir qu'elle montre qu'elle est capable aussi d'emmener cette majorité à l'Assemblée nationale, de faire gagner les députés de La République En Marche pour un premier déplacement de Premier ministre qui est presque inconnu du grand public, très connu de nous, journalistes politiques. Je suis surpris, je suis étonné.
Vous pensiez à quelque chose de plus flaironnant, Bruno Judith, plus brillant ?
Non. Ce qui me surprend, alors non pas son message aujourd'hui, l'égalité homme-femme, ce qu'elle a dit sur le perron de Matignon lundi soir, que j'ai trouvé un message court, mais plutôt réussi. On voit bien que là, c'est... Le storytelling, comme disent les communicants politiques, c'est première femme à Matignon depuis 30 ans. On installe aussi l'image d'une femme à Matignon. On humanise un peu cette Macronie qui paraît tellement uniquement constituée de technocrates, ce qu'elle est par ailleurs. Moi, je trouve ce qui manque, ce qui me surprend, c'est que ça reste une femme peu connue du grand public. Hein. Tous les reporters partout ont été faits où elle n'est pas connue, y compris en Normandie où elle se présente. C'est qu'elle ne se soit pas présentée de manière classique le 20h. Et à un moment, c'est assez surprenant.
Le 20h, oui, un journal télévisé, c'est
là,
ça.
Tout
voilà.
D'un coup, il y a 7 millions ou 6 millions de personnes qui voilà, découvrent leur premier ministre, parce que c'est quand même ça.
Peut-être que ce sera dimanche soir.
Alors, c'est une ministre qui a eu des on connaît son parcours, des ministères difficiles, qui impactent la vie quotidienne des Français, avec des réformes dont on a beaucoup parlé. On a davantage parlé de ces réformes que de celles qui les a menées. Donc c'est pour ça qu'elle a quand même un déficit de notoriété. Donc je pense quand même c'est plus ça qui me surprend. Après le déplacement d'aujourd'hui, on voit bien que comme le temps s'étire et qu'il
faut montrer qu'elle n'est pas enfermée dans sa tour.
On la verra dans sa circonscription du Calvados.
Oui, tractée un petit peu.
Non, moi je vous trouve dur. Je trouve qu'elle c'est courageux. Elle va au Mureau, qui n'est pas du tout une terre macronienne. Hein, 60% Mélenchon au présidentiel, comme Emmanuel Macron avait été à Cergy. Elle y va pour parler quand même d'abord de l'égalité des chances, qui est quand même un des sujets centraux, une des problématiques majeures de ce pays. Et effectivement, elle a quelque chose à dire sur le sujet, par son exemple. Alors effectivement, elle revient sur l'égalité homme-femme, ça va être un de ses grands combats. C'est sûr qu'elle ne va pas pouvoir non plus parler que de ça, parce qu'elle en a déjà parlé sur le perron de Matignon, et que c'est pas ce qu'attendent les Français uniquement, comme ce qu'on a dit. Hein, c'est pour eux, c'est pour une large majorité, c'est secondaire. Donc attention non plus à ne pas devenir cette caution. Mais à part ça, non, je trouve qu'elle fait un premier déplacement au cœur de ce que va être quand même l'enjeu de cette France fracturée.
François Pupponi.
Non, c'est ce qu'elle est aussi. C'est une femme à la fois qui prend du recul, qui est discrète, qui a peu été habituée, mais volontairement, d'être exposée dans les médias, etc., parce que ce n'est pas sa manière d'être. Donc elle est ce qu'elle est, elle fera des déplacements. Après, c'est compliqué pour elle, parce qu'à la fois, elle est première ministre, mais il n'y a pas de gouvernement. Donc c'est vrai que généralement,
il y a un gouvernement, figurez-vous.
Oui, enfin, je vous dirais...
Pour expédier les affaires courantes. Non, mais il y a encore des gens nommés au journal officiel.
Voilà, tout à fait, mais...
Légalement parlant,
donc,
oui.
Donc, elle attend cette nomination. Et je pense qu'une fois qu'effectivement, le gouvernement aura été, pour le coup, complètement choisi, le nouveau gouvernement, elle fera une communication, mais là, c'est un peu compliqué, parce que quel message aussi faire passer? Elle l'a déjà dit une fois, deux fois, mais là, il ne faut pas que ça traîne, voilà. Y compris pour elle, parce que c'est, faut pas la mettre en difficulté. Alors après, elle a fait ce déplacement aujourd'hui, très bien. Maintenant, le prochain acte, c'est la nomination du gouvernement, et ensuite, elle pourra communiquer et puis mettre en œuvre les premières mesures aussi. Aujourd'hui, elle est en train de gérer les affaires courantes.
Allez, un petit coup d'œil à gauche. Qu'est-ce qui se passe à gauche, Louis de Ragnel? Jean-Luc Mélenchon continue toujours sur sa lancée, avec encore une fois des meetings, des candidats.
Absolument, et surtout, ils ont réussi à NUPES, vous savez, l'alliance de la nouvelle Union populaire, donc qui rassemble les quatre partis de gauche.
Écologique et sociale.
Et sociale, pardon, j'ai oublié. Écologique et sociale, pardon. Mais j'allais les citer un par un, c'est plus clair, je pense, pour les gens qui nous écoutent. Le Parti socialiste, le Parti communiste, les écologistes et la France insoumise. Et ils ont réussi, c'était quand même assez inattendu, à parler d'une seule voix, c'était en fin de matinée, pour expliquer leur programme commun. Alors, il y a plein de sujets dont ils ne parlent pas, le nucléaire, la question de l'OTAN, la question de l'Europe, mais c'était une petite prouesse dans ce contexte où tout le monde expliquait que chacun reprenait ses œufs et que finalement, il n'y avait plus d'union au sein de cette NUPES. Et donc voilà, donc l'actualité du jour, c'était ça, chère Laurence.
Gilles Mintré.
Alors ça vaut quand même le coup d'œil, hein. Il est en ligne, hein, sur le site de la France Insoumise, on peut le regarder, les 650 propositions. 650, donc c'est précédé par un préambule de Jean-Luc Mélenchon, on ne sait pas très bien, voilà, c'est clair au moins. Hein,
c'est le patron de l'Alliance.
Oui, bien sûr, mais donc c'est lui qui parle au nom de tout le monde. Et puis alors, on voit le programme qui est très à gauche, comme on s'y attendait, hein. C'était les termes, on retrouve les 35 heures... L'abrogation de la loi El Khomri, les 1500 euros de SMIC, les 60 ans. Et puis alors, à la fin de chaque paragraphe, vous avez ce qu'on remet à la sagesse de l'Assemblée. Hein. Donc vous avez les propositions, puis un paragraphe tout aussi long qui raconte ce sur quoi ils ne sont pas d'accord. Et alors chacun dit ce qu'il veut. Alors le Parti Socialiste propose ceci, mais donc pas les autres.
Souvent sur des sujets assez fondamentaux.
Oui, des sujets très fondamentaux, comme la proportionnelle. Par exemple, on découvre à la fin, tout en bas, des propositions démocratiques que le Parti Socialiste tout seul va être pour la proportionnelle. Donc on voit quand même qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire pour que ces différents partis convergent.
Et du côté de Marine Le Pen, Bruno Jeudy, elle recommence un tout petit peu à faire des médias.
Oui, donc là, elle était à la télévision. On voit qu'elle essaie d'abord à faire un peu le ménage dans son camp, parce qu'elle aussi, elle a quelques candidats comme la France Insoumise et à la limite comme la République En Marche. Là, c'est les derniers, c'est faire le ménage avant la fin du dépôt des candidatures. Donc voilà. Alors elle sait bien qu'il y a cette impression de retard à l'allumage pour elle. Donc du coup, elle tape sur Mélenchon très fort. Voilà, en gros, il raconte n'importe quoi, il ne sera jamais Premier ministre. Et puis surtout, elle tape sévère sur Emmanuel Macron et sur aussi le retard à l'allumage, parce qu'elle renvoie la critique du retard à l'allumage vers Macron. Mais on voit bien que Marine Le Pen, au fond, dire « je veux un groupe », elle s'est mise un peu dans un argumentaire qui est pas qui va qui, ça c'est législatif
elle déjà donne pas l'impression qu'elle veut gagner.
C'est législatif, ont déjà mal commencé en refusant coûte que coûte
l'alliance
avec Éric Zemmour. Alors là aujourd'hui elle l'a justifié quand même, hein. Elle dit je ne peux pas faire alliance avec lui sur le fond, lui veut l'union des droites, moi je suis pour l'union des populaires et la retraite moi je ne défends pas la retraite à 65 ans, lui défend la retraite à 65 ans. Elle en fait un marqueur, elle en fait une différence fondamentale et elle explique le fait qu'elle n'avait pas voulu de l'alliance avec Zemmour. Mais pour le coup, elle se retrouve un peu seule. Et donc, je trouve que cette campagne législative est un peu...
Elle l'a fait un peu à l'image de début de sa présidentielle. Hein.
C'est un peu...
Sur le terrain, ils ne sont pas présents. Il n'y a pas de campagne. Oui. On sent que derrière, elle n'a pas donné l'impulsion à la campagne. Et donc, les proposés candidats ont du mal. Hein. Alors, sauf dans certaines circonscriptions.
Voilà, c'est Bardella qui s'est chargé de faire la tournée des candidats.
Oui, mais bon,
c'est pas pareil qu'avec Marine Le Pen.
Parce qu'ils jouent gros quand même. Si de nouveau, ils font une législature sans groupe,
Elle, en gros, elle veut 60. Pourquoi ? Elle dit le chiffre de 60 parce que ça permet d'avoir un groupe. Un groupe à 60, ça permettrait de saisir le Conseil constitutionnel.
Je parle sous le contrôle. Et puis de pouvoir être présent quand même, parce que 15, c'est dur.
Non, mais voilà, elle met la barre à 60. Elle sait bien que ça paraît compliqué. Mais c'est vrai que si elle se retrouve avec 10-15 députés, ce sera comme en 2017. C'est-à-dire que, bon, elle aura fait le deuxième tour de la présidentielle et derrière...
Rien.
Gilles Matré.
On est que, enfin, la campagne est courte, même si elle est plus longue que d'habitude, il y a 50 jours, on est qu'au milieu. Et effectivement, dans la présidentielle, on ne l'avait pas du tout entendu jusqu'un peu vers la fin. Son électorat est particulier, c'est un électorat qui s'intéresse vraiment au dernier moment, quand on va rentrer dans la dernière ligne droite. Elle le théorise elle-même, elle dit « moi je fais du terrain et puis je m'exprimerai plus vers la fin ». Dans la présidentielle, ça a payé, on va voir ce que ça donne.
Ce sera moins facile pour les législatives, évidemment, Louis Dragnel.
Bien sûr.
Oui, ce sera moins facile pour les législatives. Après, c'est la grande surprise. C'était un peu le. Puis il y a un défi financier aussi pour elle, parce que c'est un moyen de renflouer le parti et d'avoir. En fait, en fonction du nombre de voix que vous faites aux élections législatives, vous avez une dotation annuelle de l'État. Donc c'est pour ça qu'elle aurait tort de négliger ces élections, parce que au moins sur un plan financier, elle c'est sans doute la candidate ou le parti qui a le plus besoin d'argent.
C'est surtout quand
mais
on regarde
toujours un passage à vide après une. Enfin, on l'a vu déjà en 2017. Oui. Elle a quand même un passage à vide après une élection présidentielle.
C'est pour ça qu'elle continue à dire qu'elle n'est pas sûre de se représenter en 2027.
Oui, parce qu'elle elle a à chaque fois. Ce qui n'est pas le cas de Mélenchon, qui lui est une bête politique et qui continue après.
Il a eu un
passage
à vide en 2017. Il passe de 19% à 11%.
Il avait
avec 17 députés. Mais là, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon est en tête dans 106 circonscriptions au soir du premier tour de la présidentielle, il dit c'est une bonne base de départ. Marine Le Pen, c'est 206. Et on voit, du coup, elle a un discours qui est nettement moins ambitieux. C'est ça qui est un peu surprenant. Alors, après, effectivement, la conversion sur le terrain avec des candidats enracinés, c'est plus compliqué. Lui, bon, avec cette alliance, il sait qu'il y aura le bon candidat communiste dans un coin.
Oui, ils ont des structures qui leur permettent d'avoir des candidats localement qui sont connus et qui peuvent finalement y arriver. Ce qui n'est pas le cas du Rassemblement national.
Mais ce qui sera quand même assez intéressant à observer et surtout de voir les conséquences politiques qui vont être tirées de ça, c'est que le paradoxe, c'est que ce parti-là, donc Marine Le Pen, était quand même qualifiée au deuxième tour de l'élection présidentielle et elle va peut-être se retrouver avec le troisième ou le quatrième groupe à l'Assemblée nationale, voire pas de groupe. Et donc, c'est un éternel débat, hein, mais cette espèce de distorsion entre le résultat de l'élection présidentielle et la sous-représentation...
Et l'incapacité de trouver des alliés, aussi.
De ce qu'elle a, de ce qu'elle est à l'Assemblée nationale. Et vous avez raison sur les alliés.
Un dernier mot,
Gina. Oui, mais donc elle le sait, elle l'intègre. C'est pour ça aussi qu'elle sait bien que dans tous les cas, quelle que soit sa campagne, quelle que soit son implication, le fait majoritaire... Et son incapacité, comme vous le dites, à nouer des alliances va faire qu'elle va se retrouver avec un groupe qui sera pas à la hauteur. Donc elle se projette déjà dans l'après.
Allez, merci à tous les quatre d'avoir participé à Punchline. Dans un instant, Alexandre Lemaire pour les infos à 20h. Et ensuite, Mouloud Achour, Verveine Underground. Bonne soirée sur Europe 1.
Europe 1, 18h-20h.
Punchline, Laurence Ferrari.